Repentir et baptême, étude numéro 052. Ce document d'étude traite des doctrines concernant la prédestination et l'appel de Dieu. On y explique que le repentir et la conversion sont des conditions préalables nécessaires au baptême, et qu'ils le suivent également tout au long de la vie du chrétien. Cette étude doit être lue conjointement avec l'audio en anglais, pour ceux qui connaissent l'anglais. Les doctrines de la prédestination. Entrer dans le royaume de Dieu est un acte de faveur. Aucun homme ne vient à Dieu par sa propre compréhension ou intelligence. Il ne s'agit pas d'un processus intellectuel. Si c'était le cas, alors les universitaires seraient les premiers à entrer dans le royaume de Dieu. Il est évident, par ce qu'ils font et disent, qu'ils ne le seront pas. Tous péchent. L'humanité est sans l'Esprit Saint. Par conséquent, l'esprit humain est opposé à Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit que l'esprit charnel est inimitié envers Dieu, voir Romains 8, verset 7. Cela a aussi été traduit, car les tendances de la chair sont hostiles à Dieu, dans la Bible, version RSV. La raison en est que la nature de Dieu est transmise par l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, nous vivons en contradiction avec la loi, parce que nous n'avons pas la nature de Dieu. Cette nature est dérivée de Dieu en tant que centre de bonté. Dieu est vérité, et seule la vérité peut nous rendre libres, voir Jean 8, verset 32. La vérité est donc un concept qui découle de l'Esprit, sanctifiant les élus, voir Jean 17, verset 17 à 19. Donc, nous ne pouvons pas faire partie du royaume sans qu'il nous soit donné l'Esprit Saint. Cet Esprit s'éloigne du péché. Dieu doit, par conséquent, prendre une décision consciente d'exposer les élus à l'Esprit, sachant qu'ils n'échoueront pas. Il le fait par sa divine omniscience. Nous avons donc été appelés à son repos, à commencer par Christ, voir 1 Pierre 1, verset 20, et inscrit dans le livre de vie, et ce, dès la fondation du monde, voir Apocalypse 17, verset 8. Les œuvres de Dieu ont été achevées avant la fondation du monde, voir Hébreux 4, verset 3. Les élus sont l'œuvre de Dieu. C'est Dieu, à travers Christ, au moyen de l'Esprit Saint, qui ouvre l'esprit de tous les élus, en débutant par les apôtres, afin que les Écritures puissent être comprises, voir Luc 24, verset 45. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a parlé en parabole, afin que ceux qui n'ont pas été choisis ne puissent pas comprendre. Autrement, ils reviendraient et seraient sauvés, voir Matthieu 13, verset 10 à 17, avant d'être capables d'entrer en jugement. Dieu est miséricordieux, et il ne veut pas qu'aucun ne périsse, voir 2 Pierre 3, verset 9. Donc, par sa divine préscience, chacun est appelé selon son dessein, car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né parmi de nombreux frères. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux que Dieu a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voir Romains 8, versets 28 à 31. Voir aussi le document d'étude de la prédestination numéro 296. Voyons maintenant repentir et conversion. Pour que l'humanité vive ou reçoive la vie éternelle, Dieu requiert d'elle qu'elle se repente. À moins qu'elle ne se repente, elle périra. Voir Luc 13, verset 3, verset 5. Christ a été envoyé pour appeler l'humanité à se repentir. Voir Luc 11, verset 32. Christ a débuté son ministère après l'emprisonnement de Jean le Baptiste, voir Matthieu 4, verset 12, verset 17. L'emprisonnement de Jean a eu lieu quelque temps après la Pâque, de l'an 28 de notre ère, voir Jean 3, verset 22 à 24, Matthieu 4, verset 12, étant la Pâque après le début du ministère de Jean, dans la 15e année du règne de Tibère, voir Luc 3, verset 1. À partir de ce moment-là, Jésus commença à prêcher en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Voir Matthieu 4, verset 17. Christ a chargé ses disciples de prêcher l'évangile du repentir, leur donnant autorité sur les démons ou les esprits impurs. Voir Marc 6, verset 7, verset 12, Luc 10, verset 1, verset 17 à 20. Deux choses sont essentielles au repentir. La première est la connaissance du péché et du fait que l'on a péché. Voir Romains 3, verset 23. La deuxième est d'être capable de se tourner vers Dieu à travers sa parole. Donc, Il nous a été donné la capacité de comprendre la nature du péché et le contenu des mystères de Dieu. Les élus ont le pouvoir sur les démons simplement pour démontrer que leurs noms sont inscrits dans les cieux et pour contrôler les actions et les circonstances qui les entourent dans les combats spirituels auxquels ils font face. Les élus acquièrent ainsi de l'assurance dans leur capacité à être plus forts que le pouvoir des démons. Le repentir était enseigné comme le prélude à l'enlèvement du péché, entre parenthèses, ou de la méchanceté, voir Actes 8, verset 22, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la présence ou de la part du Seigneur, pour que Dieu envoie le Christ qui nous a été destiné, voir Actes 3, verset 19 à 20. Christ ne nous est donc pas envoyé jusqu'au repentir. C'est un processus continuel. Christ est envoyé sur une base individuelle, ainsi qu'une fois pour toutes. Les trinitaires ont de la difficulté ou du mal à comprendre ce processus en raison de la mauvaise compréhension de la divinité. Les temps de l'ignorance, comme on les appelle, Dieu n'en tient pas compte. Mais après Christ, Dieu ordonne à tous les peuples de se repentir, leur ayant fixé un jour de jugement, voir Actes 17, verset 30. Ainsi le repentir est étendu aux païens, voir aussi Actes 15, verset 3. La prise de conscience du péché et de l'inutilité du pécheur est le facteur majeur dans le repentir. Donc, être juste à ses propres yeux, ou pharisaïque, est le pire des péchés, car le pécheur ne peut pas voir sa propre insuffisance. C'est une illusion de soi. Dieu éloigne de nous nos offenses, entre parenthèses transgressions, aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, voir Psaume 103, verset 12. Notez le sens général de Psaume 103, verset 6 à 14. Nous lisons dans Psaume 103, verset 6 à 14. L'Éternel fait justice, il fait droit aux opprimés, il fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce, il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Version Louis II. Après s'être repenti et en se tournant vers Dieu, le pécheur repenti doit ensuite accomplir des actes dignes du repentir. Voir Actes 26, verset 20. Nous devons changer notre comportement. Le péché n'est pas accidentel. Il procède du conditionnement de l'esprit. Par une réaction physico-chimique, une mémoire à long terme ou des habitudes ancrées s'installent dans notre cerveau. C'est pourquoi il est difficile pour les gens de résister ou de lutter contre le péché. Ils doivent changer les processus mêmes de l'esprit. C'est la base du texte « Recommande tes voies à l'Éternel et il établira tes pensées ». Ceci est exprimé dans la Bible version RSV comme « Recommande tes voies au Seigneur et il établira tes projets ». Proverbe 16, verset 3, se référait aussi à 2 Corinthiens 10, verset 5. La Bible version King James saisit peut-être la signification plus large de l'action du cerveau. Il s'agit d'un processus continu. Certaines structures sociales sont tellement allées trop loin qu'elles ne peuvent plus surmonter leurs problèmes. Dieu a détruit Sodome parce que les gens de Sodome ne pouvaient pas être corrigés, étant donné le temps imparti et l'opération du plan, et leur capacité à être atteints pour se repentir. En d'autres termes, leur façon de penser était tellement corrompue pour qu'ils réagissent au message qui leur était adressé. Ainsi, dans les derniers jours, les peuples ne permettront pas au Seigneur de réhabiliter les nations, même lorsque le témoin de la prophétie et de l'Écriture est devant eux. Voilà pourquoi Sodome condamnera notre peuple, voir Matthieu 11, verset 23 à 24, Marc 6, verset 11, Luc 10, verset 12, parce que nous avons le message de Christ, alors qu'eux ne l'avaient pas. Donc, l'appel de Dieu selon la séquence prédestinée des événements est la première étape ou phase du processus d'entrée dans le royaume de Dieu. Dieu connaît la fin depuis le commencement. Il ne prédestinera pas des personnes qui échoueront. Ainsi, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Voir Matthieu 22, verset 14. Dieu n'amène pas délibérément des individus en jugement avant qu'ils ne soient capables d'être assujettis au processus. Ainsi, les appelés, mais qui ne sont pas choisis, retourneront tout simplement à la deuxième résurrection. Par exemple, tous ceux qui sont actuellement baptisés dans l'Église et qui sombrent dans la Trinité vont à la deuxième résurrection. Ils ne sont tout simplement pas amenés en jugement. Dieu ne se révèle pas à eux. L'exigence ou la condition pour être dans la première résurrection, qui est d'avoir la vie éternelle, est de connaître le seul véritable Dieu et son Fils Jésus-Christ. Voir Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3 s'applique aux deux résurrections et à tous les peuples. Aucun adorateur d'un faux Dieu, même celui qui se prétend être chrétien, comme le sont les trinitaires par exemple, ou adorateur d'autres faux dieux, n'héritera la vie éternelle, et ce, même lors de la deuxième résurrection. Leurs erreurs leur seront montrées par les élus, qui seront leurs enseignants en tant qu'êtres spirituels. S'ils ne se repentent pas lors de la deuxième résurrection, ils vont mourir, et seront brûlés dans la géhenne. Ils seront confrontés à un choix au cours d'une période de 100 ans, voir Ésaïe 65, verset 20. Ou ils se repentiront, ou mourront. Cela s'applique à tout péché relevant de la catégorie des commandements de Dieu. Le premier et le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, voir Matthieu 22, verset 37, Marc 12, verset 28, se référer aussi à Deutéronome, chapitre 6, verset 5, englobe les quatre premiers des 10 commandements. Le deuxième grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, voir Matthieu chapitre 22, verset 39, se référer à Lévitique 19, verset 18, englobe les 6 derniers commandements. Sur ces deux grands, ou commandements centraux, sont accrochés toute la loi et les prophètes, voir Matthieu 22, verset 40. Donc, les 10 commandements ne sont pas exclusifs. Ils sont l'extension des deux et le noyau de la loi, tel que donné par le Messie à Moïse à travers l'Esprit Saint. Le repentir est le processus de retour à Dieu au sein de sa structure, voir Malachie 3, versets 6 à 12. Entre parenthèses, se référer aux séries sur la loi dans le document d'étude « La loi de Dieu » numéro L1. Ce processus de retour à Dieu se produit dans le cadre de l'action de connaître ou d'apprendre ou d'arriver à connaître Dieu, voir Jean 17, verset 3, Jean 10, verset 37 à 38. Christ révèle le Père à l'individu après que le Père lui a donné à Christ, pour que le processus commence. Voir Jean 6, verset 44, verset 57, verset 65. Ainsi, l'appel a lieu dès le commencement du monde et est systématique. C'est la première des trois phases, la deuxième phase étant le baptême, et la troisième, le repentir continuel. Voyons le baptême. Toute autorité a été conférée à Christ à la suite de sa résurrection, voir Matthieu 28, verset 18. Christ ordonna à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, voir Matthieu 28, verset 19, en leur enseignant à faire tout ce que Christ leur avait prescrit. Ainsi, ils seraient toujours avec eux jusqu'à la fin de l'âge, voir Matthieu 28, verset 20. Pour recevoir le don de l'Esprit Saint, le repentir doit être accompagné du baptême, voir Actes 2, verset 38. Nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit Saint à moins de nous être repentis et d'avoir été baptisés, étant ainsi nés de nouveau. Si nous ne naissons pas de nouveau, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu, voir Jean 3, verset 3, verset 5. Le repentir est conditionnel au baptême et à la réception de l'Esprit Saint. Donc le baptême des enfants est logiquement exclu, comme étant contraire à la Bible. Le baptême est le premier des deux seuls sacrements de l'Église, l'autre étant le dîner du Seigneur, voir le document d'étude des sacrements de l'Église, numéro 150. La condition préalable du repentir a été soulignée par la mission de Jean le Baptiste, qui fut le précurseur du baptême de l'Esprit Saint en Christ, voir Marc 1, verset 4, verset 8. Jean a déclaré que Christ baptiserait d'Esprit Saint et de feu, concernant les non-repentants, entre parenthèses décrits comme de la paille, voir Luc 3, versets 16 à 17. L'Esprit Saint est conféré sous la direction de Dieu. Suite à la demande signifiée par l'imposition des mains, l'Esprit Saint entre dans l'individu. L'Esprit Saint n'est pas conféré par la personne qui impose les mains. Là où les personnes qui imposent les mains le font en tant que représentants de l'Église, demandant à l'Esprit Saint d'agréer la requête de l'Église et de l'individu, et d'entrer dans le destinataire pour quelque activité que ce soit. C'est la raison pour laquelle la condition de l'officier ou représentant de l'Église est sans pertinence pour la validité du processus. Christ a dit que tout ce que deux ou trois d'entre vous lient sur la terre est lié dans le ciel, voir Matthieu 18, verset 18 à 20. Nous lisons dans Matthieu 18, versets 18 à 20. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Version Louis II. L'Esprit est ainsi conféré pour chaque aspect de l'œuvre de Dieu et n'est conféré par aucun homme. L'Esprit Saint opère dès avant le baptême, en traitant avec chaque individu. L'Esprit attire les élus vers Dieu à travers Christ, voir Hébreux 7, verset 25. Les prémices de l'Esprit sont données à l'individu au moment du baptême, selon Romains 8, verset 23, qui indique clairement que l'adoption ne se produit pas avant la rédemption du corps. Donc, nous sommes nés de nouveau, mais continuons à grandir spirituellement en Christ Jésus tous les jours, jusqu'à ce que nous entrions dans la gloire de Dieu. Voir les documents d'étude de l'Esprit d'adoption, numéro 034, et né de nouveau, numéro 172. Ce don de l'Esprit Saint lors du baptême est l'eau puisée aux sources du salut, promise par Dieu à travers ses prophètes, voir Ésaïe 12, verset 3. Cette eau de l'Esprit Saint était la promesse de Dieu à Jacob, enregistrée dans Ésaïe 44, verset 3. Le Seigneur Dieu est la source d'eau vive, voir Jérémie 2, verset 13, chapitre 17, verset 13, et Zacharie 14, verset 8. C'est le fleuve d'eau de la vie, voir Apocalypse 22, verset 1. Christ, en parlant de l'Esprit, voir Jean 7, verset 39, a dit que de lui des eaux vives coulent. Voir Jean 4, verset 10 à 14, chapitre 7, verset 38, se référer à Ésaïe, chapitre 12, verset 3, 55, verset 1, 58, verset 11, Ézéchiel 47, verset 1. Israël est spirituellement purifié par l'eau, à partir d'Ézéchiel 36, verset 25, qui est l'eau de la vie ou l'Esprit Saint. Les élus prennent gratuitement cette eau, voir Apocalypse 22, verset 17. Voyons maintenant un repentir continuel. Le repentir est un processus continuel et devrait devenir plus profond au fil des années après le baptême. L'église d'Éphèse fut appelée à se repentir et à se souvenir d'où elle était tombée et à pratiquer ses premières œuvres, voir Apocalypse 2, verset 5. De même, l'église de Pergame fut appelée à se repentir, voir Apocalypse 2, verset 16. Tout comme l'église de Thyatire, voir Apocalypse 2, verset 21 à 22, qui avait des apostats qui ont couché, entre parenthèses, se sont jetés sur un lit, avec de faux enseignants religieux. L'église de Sardes était également appelée à se repentir, sinon Christ viendrait à elle comme un voleur durant la nuit, et il ne saurait pas à quelle heure il viendra, voir Apocalypse 3, verset 3. Ceux que Christ aime, il les réprimande et les châtie. Christ exige qu'ils, dans ce cas ceux de Laodicée, soient zélés et qu'ils se repentent. Voir Apocalypse 3, verset 19. Le repentir est ainsi continuel pour toutes les églises de Dieu, étant la responsabilité de tous. Voir Jacques 5, verset 19 à 20. Le repentir est donc la condition nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Si ce n'était pas pour les élus qui sont le temple de Dieu, voir Lévitique 26, verset 12, 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, chapitre 6, verset 19, 2 Corinthiens 6, verset 16, Éphésiens 2, verset 19 à 22, et qui font partie du processus que Dieu a mis en mouvement dès le commencement du monde, il n'y aurait aucune chair laissée vivante, voir Matthieu 24, verset 22. Dieu aurait permis à toute l'humanité adamique de mourir, comme Dieu a voulu que les Néphilim soient exterminés. Voir le document d'étude des Néphilim, numéro 154. Dieu est en train d'agir pour traiter avec l'humanité par l'intermédiaire de Jésus-Christ et des élus qui ont été écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Les élus étaient prédestinés à être appelés. Ils ont été appelés à la repentance. Le repentir était conditionnel à la réception de l'Esprit-Saint, qui ne pouvait être symbolisé que par le baptême. Le repentir est continuel dès le baptême, afin que nous puissions croître et grandir en esprit, jusqu'à ce que nous atteignions la perfection et l'adoption, qui est la rédemption du corps. Ceux qui se sont endormis doivent être ressuscités dans la chair, afin qu'ils puissent être transformés en êtres spirituels, comme l'a été Christ, en tant que l'offrande de la gerbe. Le Messie était le premier des prémices, il est devenu un fils de Dieu avec puissance dès sa résurrection d'entre les morts, voir Romains 1, verset 4. Nous sommes aussi les prémices à qui a été donné l'Esprit, à la Pentecôte et racheté à l'avènement. La séquence des jours saints représente ces aspects de notre appel et de notre réconciliation avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Voir les documents d'études des fêtes de Dieu en rapport avec la création, numéro 227, et les jours saints de Dieu, numéro 097. Fin de la lecture de l'étude Repentir et baptême, numéro 052.